réplique, le roman, le réel, avec Émilie Frèche et Delphine de Vigan. L'héroïne est la narratrice du dernier livre d'Émilie Frèche, Un homme dangereux, ne sont autres qu'Émilie Frèche. Le livre de Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie, s'ouvre par ces mots. Quelques mois après la parution de mon dernier roman, j'ai cessé d'écrire. Les deux ouvrages, cependant, se présentent sous le label roman. Si bien que le lecteur ne sait pas très bien sur quel pied danser. Où est la réalité, où est la fiction? Plongé dans l'indécidable, privé de ses repères familiers, il est un peu comme cet homme qui, lors d'une rencontre à Chalon-sur-Saône, a, si l'on en croit son roman, interpellé Delphine de Vigan en ces termes. Les lecteurs n'aiment pas se faire arnaquer. Ce qu'ils veulent, c'est que la règle du jeu soit claire. Nous, on veut savoir à quoi s'en tenir. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Un point, c'est tout. C'est une autobiographie ou c'est une pure fiction. C'est un contrat passé entre vous et nous. Mais si vous arnaquez le lecteur, il vous en veut. Que répliquez-vous à ce mauvais coucheur, Delphine de Vigan?
Alors, si tant est qu'il existe et qu'il n'est pas le fruit de mon imagination, je lui répondrai que c'est le propre de la lecture, d'une certaine manière, de se faire arnaquer, enfin, si, pour reprendre ces mots. En tout cas, c'est même le plus grand plaisir de la lecture, de ne pas savoir où on est exactement. Enfin, en tout cas, moi, en tant que lectrice, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti. Et au fond, quand on discute avec les lecteurs, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir. Ils croient avoir besoin de savoir et au fond, quand on parle avec eux, on se rend compte que ce qu'ils aiment, c'est simplement qu'on leur raconte une histoire et y croire, mais qu'ils ont cette capacité de croire aussi à la fiction.
Oui, et en même temps, les lecteurs Delphine de Vigan qui ont lu « Rien ne s'oppose à la nuit » savaient qu'il s'agissait dans ce livre de votre mère, et d'ailleurs c'est attesté par la photographie qu'on trouve en couverture du livre, et c'était très important pour eux. C'est un pacte que vous avez passé avec le lecteur, le pacte autobiographique, comme dit Philippe Lejeune, et ils n'auraient pas eu la même lecture s'il ne s'agissait pas d'un personnage réel, et si ce personnage réel, en plus, n'avait pas été votre mère.
Oui, là, ce pacte était beaucoup plus clair, effectivement, dans mon précédent roman, dans Rien ne s'oppose à la nuit. Même si j'avais tenu, à l'époque, à ce que l'appellation roman soit présente sur le livre, et même s'il s'agit, pour moi, d'un personnage. Ce n'est pas ma mère, c'est un personnage qui est inspiré de ma mère. Mais cette référence au réel, elle est effectivement affirmé, et c'est sans doute le livre que j'ai écrit où l'auteur que je suis se confond le plus avec la narratrice, où cette frontière qui sépare toujours l'auteur du narrateur est probablement la plus perméable et la plus ténue. Ça n'est pas du tout le cas d'après une histoire vraie, qui est une démarche très différente.
Alors, même question, Émilie Frèche. Que répondez-vous au mauvais coucheur qui a peut-être, à Chalon-sur-Saône, un jour, interpellé Delphine de Vigan?
Alors, je vais citer Annie Ernaux dans le quarto qui regroupe toute son œuvre en introduction. Elle dit « Je m'attache à rendre compte de la vérité sensible, en opposition à la vérité des faits. » Et je me reconnais vraiment dans cette distinction-là. J'ai l'impression que tout ce qui est de l'ordre du sentiment dans mes romans est vrai. Mais pour arriver à cette vérité sensible, je crois qu'on est obligé dans le roman de contorsionner la réalité des faits. Pour des raisons dramaturgiques, pour des raisons de tension dramatique. Et donc voilà, je dis toujours au lecteur, peu importe si les faits sont avérés, s'ils ont vraiment eu lieu. En revanche, il y a, je crois, une sincérité totale sur le sentiment. Et dans le livre, c'est le sentiment de l'emprise, de la domination, du dérèglement, de la violence verbale. Oui, tout cela est vrai. Et je crois que c'est beaucoup plus important que la vérité des faits dont on se moque. C'est surtout notre grande liberté créatrice. En histoire, on appellerait ça de la révision. La littérature nous permet justement de prendre des libertés totales par rapport au réel.
En même temps, avec ce que vous dites, on en revient aux deux définitions possibles de ce que Dubrovski a appelé l'autofiction. La première définition, je la trouve chez Gérard Genette, qui écrit « Pour définir le pacte délibérément contradictoire propre à l'autofiction, par opposition justement au pacte autobiographique, moi, auteur, je vais vous raconter une histoire dont je suis le héros, mais qui ne m'est pas arrivée. Et celle de Dubrovski est très différente. Un curieux tourniquet s'instaure, dit-il, fausse fiction, qui est l'histoire d'une vraie vie. Le texte, de par le mouvement de son écriture, se déloge instantanément du registre patenté du réel. Ni autobiographie, ni roman au sens strict, il fonctionne dans l'entre-deux. Mais pour le lecteur, c'est un peu un problème, si vous voulez, de ne pas savoir à quoi s'en tenir. Parce que quand il lit Philip Roth, l'opération Shylock, il comprend très bien que, au bout d'un certain temps, malgré certaines notations biographiques réelles, qu'il s'agit d'une vie imaginaire. Philip Roth va à la recherche de son double à Jérusalem, l'homme qui se fait prendre pour lui et qui préconise, face au sionisme tenu en échec, le diasporisme. Il lui court après, il se rencontre, il y a des histoires rocambolesques, d'espionnage. On comprend qu'il s'agit de l'autofiction au sens de Genette. Mais avec vous, Émilie Frèche, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire, vous êtes impliqué, c'est vous-même. Il vous arrive une histoire terrible, une histoire d'emprise, avec un homme que on est amené à reconnaître. Et ça change tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas écrit tout à fait un roman à clé, parce que c'est un roman à clé, vous-même n'apparaîtrez pas sous votre nom. Donc, vous pratiquez un effet de réel extrêmement fort. Il s'agit d'Émilie Frèche, qui rencontre un chroniqueur dans un grand magazine, qui aime Belgrade notamment, etc. Donc, peu à peu, tout le monde se dit, il s'agit de Patrick Besson. Évidemment, on lit l'histoire ainsi, et en même temps, on est amené à se demander, mais est-ce que c'est vraiment arrivé, puisqu'il s'agit de Benoît Parent, et on est partagé. Ce n'est pas la même chose que de raconter une histoire d'emprise par un homme dangereux sorti de votre imagination, et quelque chose qui est arrivé à Émilie Frèche, dont ce serait rendu responsable, voire coupable, quelqu'un que tout le monde connaît et qui a une influence sur la vie des lettres. Parce qu'à ce moment-là, le danger devient, si vous voulez, beaucoup plus effectif, beaucoup plus proche. Donc je me dis que, finalement, peut-être auriez dû vous choisir la voie plus risquée, sans doute, mais plus claire de l'autobiographie, Émilie Frèche.
C'était pas possible, parce qu'on rentre dans l'ordre, ça devient de la diffamation. Enfin, si je citais quelqu'un en particulier. Ensuite, cette reconnaissance-là du personnage, elle se fait dans le cadre d'un milieu qui est tout de même très restreint. Et je pense que Benoît Parent, que vous reconnaissez comme étant un journaliste, éditorialiste, juré dans des prix, etc., d'autres lecteurs que j'ai pu rencontrer dans des salons ou autres ailleurs, qui n'appartiennent pas du tout au milieu littéraire, reconnaissent un père, un parent, un patron. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, à la fin, c'est un archétype. Et après, bien sûr qu'il y a une mise en danger, mais l'écriture est une manipulation. Et moi, j'aime cette idée de ce va-et-vient entre la réalité et la fiction. J'aime l'idée que mon livre impacte sur le réel, bien sûr. Donc cette mise en danger, elle est totale, elle est... évidemment, j'aurais pu, à l'inverse aussi, ne pas choisir l'autobiographie, mais choisir de rendre un peu moins floues ces frontières en donnant à la narratrice un nom qui n'était pas le mien. Et, oui. Mais j'avais envie de cette mise en danger.
Oui, vous avez envie de cette mise en jeu, mais est-ce que vous ne croyez pas, Émilie Frèche, que ça a un peu bloqué la critique? C'est-à-dire que votre livre, qui est admirablement composé, qui est palpitant, n'a pas reçu l'accueil que l'on pouvait attendre. Certains journaux se sont abstenus d'en parler parce qu'ils étaient comme inhibés, tétanisés, bloqués. Ils se disent, ils reconnaissent quelqu'un, mais ils ne savent pas si c'est lui, ils ne savent pas s'ils doivent en parler, d'où cette espèce de paralysie qui explique un certain silence.
Merci. Merci de le souligner. C'est un livre sur le pouvoir, c'est un livre sur l'abus de pouvoir, et la réaction de la critique, finalement, donne raison au texte. J'ai mis le doigt sur quelque chose qui est vrai, qui existe, et l'attitude de la critique en témoigne. Donc je me dis que j'ai eu raison et que les artistes sont pas là pour avoir des bons papiers. Les artistes sont là pour dire des choses qu'ils sont dans l'obligation de dire. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de nécessité. Écrire un livre, ça répond à une nécessité. Moi, j'étais dans la nécessité de dépeindre cette emprise. Je pouvais pas faire autre chose que d'écrire ce texte. Et donc, j'ai écrit le texte dont j'avais envie. Maintenant, si les critiques ont pas voulu en parler parce que tout d'un coup, il y a un effet de corps parce que je mets en scène un personnage compliqué, odieux, avec des propos largement antisémites, etc., et que ça pose problème, et qu'on ne sait pas justement sur quel pied danser, ou qu'on ne veut pas croire. Il y a cette idée-là aussi. C'est pas possible que ce personnage soit comme ça. Eh bien, c'est leur problème, j'ai envie de dire.
Nous reviendrons justement, et notamment à cette question de l'antisémitisme de ce personnage. C'est une composante essentielle, obsessionnelle de sa personnalité. Je crois que ça explique aussi largement le silence critique. Si on reconnaît quelqu'un et si en plus on dit que cette personne qu'on reconnaît est antisémite, là, voilà, on a peur de ce qui peut arriver. Mais nous y reviendrons. Mais Delphine de Vigan, diriez-vous que vous pratiquez quelque chose comme l'autofiction? Et quelle définition reprenez-vous à votre compte?
J'aime pas beaucoup ces étiquettes. D'une manière générale, je dois vous dire que je les connais, je les ai étudiées, mais qu'elles m'intéressent assez peu. Et surtout, j'ai l'impression qu'on vit une époque où justement le roman, grâce à des auteurs comme Philippe Roth que vous citiez, s'affranchit au fond de ces étiquettes et peut prendre le risque de les mêler, de mêler les genres, de mêler les codes, et finalement de faire exploser un petit peu ces catégories qui parfois sont comme des carcans. En ce qui concerne D'après une histoire vraie, c'est pour moi pas du tout une autofiction, c'est ni une autofiction ni une autobiographie. C'est un livre justement où je me suis amusée précisément à mêler ces codes, qui s'ouvre sur un certain nombre d'effets de réel, comme vous le disiez. J'espère que ces effets de réel fonctionnent, qui font croire au lecteur quand il commence le livre, qu'il lit mon histoire, qu'il lit ce qui m'est arrivé après la parution de mon précédent roman. Or, cette narratrice s'appelle Delphine, mais elle s'appelle pas Delphine de Vigan. Son nom n'est jamais cité, son livre n'est jamais cité.
Mais et on assez pense vite, quand même que c'est celui-là, étant donné l'immense succès qu'il a reçu.
Bien sûr, c'est très difficile.
C'est fait d'écrire pour. Après le livre que vous avez.
Et c'est fait pour que le lecteur commence ce livre en se disant, surtout dans une époque où nous sommes tous fascinés par le vrai, où cette question de la vérité est au centre de beaucoup de débats, mais aussi est devenu un argument commercial, que le lecteur se pense lire une histoire vraie. Voilà. Le texte lui est vendu comme ça, comme me l'a dit une lectrice il n'y a pas longtemps, c'est marqué sur la couverture, alors je me suis dit ça doit être une histoire vraie. Et puis ensuite, d'emmener le lecteur suivre un chemin où il va évidemment commencer à douter de cette vérité-là, pour peut-être en rencontrer une autre. Et il n'y a pas longtemps, dans une rencontre en librairie, une lectrice m'a dit quelque chose de très joli, qu'elle avait donc acheté ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une histoire vraie, qu'au bout d'un moment, elle avait eu le sentiment de se faire un petit peu trimballer ou manipuler, et puis qu'au bout du compte, quand elle a fermé le roman, elle m'a dit « Vous m'avez réconcilié avec la fiction ». Et je lui dis, vous pouvez pas me faire de plus beaux compliments. Mais pour revenir à cette question des codes et des étiquettes, vous citiez Opération Shylock. Moi, c'est peut-être le livre grâce auquel j'ai pu écrire D'après une histoire vraie. C'est-à-dire que le jour où j'ai lu ce roman, je me suis dit, mais on a le droit de faire ça. On peut faire ça. Mais c'est génial. C'est formidable. Alors évidemment, je prétends pas être dans les pas de Philip Roth, mais il y a des auteurs comme lui qui ont été pour moi des pionniers, qui ont vraiment ouvert des voies, des autoroutes pour nous qui arrivons après, et pour justement pouvoir jouer au sens ludique, jouer avec le jeu, justement.
Oui, vous citez Philip Roth, je pense à un autre livre de Philip Roth, Exit le fantôme, dont je citerai tout de suite un extrait, parce que c'est aussi une histoire d'emprise que votre livre d'après une histoire vraie, une femme, elle, disons, entre dans la vie de la narratrice, Delphine, prend de plus en plus de place et veut absolument qu'elle continue dans la veine autobiographique. Tu as quitté le territoire du romanesque, tu as quitté l'artifice, le mensonge, les faux-semblants, tu es revenu au vrai, il n'y a d'écriture que l'écriture de soi, ta vie doit être ta seule matière, c'est ce qu'elle serine, donc c'est une forme de doxa, si vous voulez, qu'elle incarne et qui agit un peu comme un surmoi sur la narratrice. Et là, en effet, c'est très intéressant parce que c'est une des tendances actuelles que de confondre la vérité, que de n'entendre la vérité qu'au sens de vérité historique. Ce qui est vrai, c'est ce qui est vraiment arrivé. Alors qu'il existe aussi une vérité métaphysique, non pas qu'est-ce qui est arrivé, mais qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que mourir, qu'est-ce que l'amour, c'est un amour de Swann, qu'est-ce que mourir, c'est la mort d'Ivan Illich. Et c'est cette vérité qu'explore en effet le roman. Et dans Exit le fantôme, il y a Ami Belette, le personnage central, qui dit toute sa haine du réductionnisme biographique du journalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui intéresse les journalistes, c'est simplement ce qui s'est réellement passé. La question, c'est quelle transgression l'écrivain a-t-il commise, et ce non pas à l'encontre d'exigences d'ordre esthétique, mais à l'encontre de sa fille, son fils, sa mère, son père, son conjoint, sa maîtresse ou son amant, son ami, son éditeur, son animal de compagnie. Et elle est absolument horrifiée par ce genre de réductionnisme. Et il y a un biographe qui veut absolument tout connaître de la vie de l'écrivain dont il s'agit dans Exit le fantôme, Lonoff. Il lui est reproché par le narrateur Zuckerman de chercher non pas le génie du génie mais le secret du génie. Voilà. Et il dit et tout cela est très bien montré dans votre livre parce que c'est de cela qu'il s'agit. Après tout, d'après une histoire vraie, est-ce que on a toute la vérité quand c'est une histoire vraie que l'on relate ou que l'on enjolive? Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée de la vérité que le roman peut explorer, une vérité de l'existence? Mais, et j'en aurais dû terminer, en même temps, dans Rien ne s'oppose à la nuit, le fait qu'il s'agisse d'une vérité historique donne une puissance particulière au livre. Par exemple, il s'agit de votre mère qui vit sous camisole chimique pendant de très nombreuses années, dans une sorte d'état d'hébétude. Elle ressemblait à tous les gens qui prennent des neuroleptiques à haute dose. Leur regard est le même, leurs émotions sont contenues, régulées, sous contrôle. Et il y a une scène que je trouve absolument bouleversante, incroyable. C'est que cette Lucille, très diminuée par cette camisole chimique, parce qu'elle a eu des bouffées délirantes, et elle a été internée à plusieurs reprises, elle a même commis des violences contre ses propres enfants, votre sœur, ou la sœur de Jean-Dartry, je sais pas comment il faut dire, elle aime Dallas. Elle adore le feuilleton Dallas, et il y a une plaisanterie en famille que l'on fait à répétition, un gag à répétition. Toute la famille se met à chanter « Dallas, ton univers impitoyable, glorifie la loi du plus fort, Dallas, et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. » Et vous dites, alors Lucille, qui avait lu Maurice Blanchot, et Georges Bataille, Lucille, dont le sourire était si rare, souriait de toutes ses dents, se marrait même et me déchirait le cœur. Dans une colère aveugle, je rêvais de les piétiner et de les transpercer de coups de poing. Je les haïssais tous, car alors me venait à l'idée qu'ils étaient coupables de ce qu'elle était devenue et qu'ils en riaient à gorge déployée. Bien sûr que c'est une scène qui aurait pu figurer dans un roman, parce qu'elle est extraordinaire. Mais le fait qu'il s'agit d'une forme d'autobiographie où, comme vous le dites, vous écrivez votre mère, eh bien, évidemment, c'est autre chose. C'est autre chose. L'idée que ça s'est passé et que ça a pu se passer comme ça est absolument sidérante. Le lecteur est atterré par ce qu'il lit. Donc, vous voyez, quand même, la vérité historique, à certains moments, a un poids. Ça existe. Celle que peuvent livrer des confessions comme la vôtre.
Oui, oui, bien sûr, on ne peut pas le nier. C'est d'ailleurs de cette interrogation qu'est né pour moi le roman suivant. Quand Rien ne s'oppose à la nuit apparu, quand j'ai accompagné ce livre dans les librairies, etc., une question revenait toujours de la part des lecteurs qui me demandaient, puisque ce livre se donnait à lire comme un roman personnel, autobiographique ou biographique, les lecteurs me demandaient tout le temps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout s'est passé comme ça?
Ils en avaient besoin.
Pourquoi? Oui, ils en avaient besoin. Et je dois dire que la répétition de cette question m'interpellait beaucoup et à un moment donné est devenue un petit peu terrifiante parce que oui, d'une certaine manière, un certain nombre de faits que je raconte dans ce livre sont avérés. Ils sont, si on parle de l'exactitude des faits, ils sont vérifiables. Ils sont vérifiables à l'extérieur. Un rapport de police, ils figurent vraisemblablement dans des archives, des choses comme ça. Mais malgré tout, malgré cela, il n'en demeure pas moins que c'est ma façon de raconter les choses. Et que même cette scène que vous décrivez, probablement qui bien sûr est inspirée de ma mère à moi, adorait Dallas et ça la faisait sourire alors qu'elle ne souriait plus. Mais la manière dont je la raconte est forcément extrêmement subjective. Elle est subjective dans ma mémoire, elle est passée au travers du filtre de ma mémoire, et elle est subjective dans l'écriture, et tout ça c'est un travail de transformation. Et pour moi c'est ce travail de transformation qui fait qu'un lecteur marche ou pas dans l'histoire. C'est-à-dire que les faits en soi, ils n'ont aucun intérêt. Un rapport de police, ça n'a pas d'intérêt. C'est raconté, ça a d'intérêt si on sait le raconter, si on fait passer cette émotion.
Émilie Frey,
je rejoins totalement Delphine. Moi, mes précédents livres, Deux étrangers sur mon père, Chouquette sur ma mère, on m'a très inspirée. On m'a toujours demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je trouve, en vérité, ce qui est toujours beaucoup plus violent dans un roman qu'on peut qualifier d'autobiographique, c'est pas ce qui est vrai, c'est finalement ce qui est faux et ce qu'on transforme. Parce que tout est si vrai que, enfin, il y a tant de choses vraies que ce qui a été transformé paraît vrai aussi. Et ça, c'est une violence pour l'entourage. Moi, souvent, les gens dans mon entourage qui se sont reconnus dans mes textes ont trouvé beaucoup plus violent des choses que j'avais pu transformer, qui étaient justement la part créatrice ou la part subjective, mon point de vue, que des faits avérés.
Oui, enfin moi, surtout le sentiment que j'ai eu en écrivant Rien ne s'oppose à la nuit, c'est qu'au fond, cette vérité, elle était inaccessible. J'ai cherché, dans ce livre, j'ai cherché à transformer le moins possible. J'ai cherché à être au plus près de la vérité. Est-ce que c'est ça qui fait le succès du livre? C'est ça la question qui m'a hantée. Est-ce que ce livre a reçu autant un tel écho simplement parce que je le donnais à lire comme étant une histoire vraie, enfin pour schématiser? Est-ce que le lecteur a besoin de ça? Et j'avais envie d'interroger le lecteur sur cette question.
Oui, mais vous aviez besoin de ça d'une certaine manière parce que vous dites à un moment donné que vous avez donné à votre mère un cercueil de papier. Vous utilisez à deux reprises cette expression, écrire ma mère. Et ça m'a fait penser à une autre expression utilisée par Roland Barthes dans une très célèbre conférence, Longtemps je me suis couché de bonheur, où il commence à réfléchir à l'idée d'un roman. Et il dit, ce roman, je lui donnerais pour première mission, si je l'écrivais, sa première mission serait de me permettre de dire ce que j'aime. Dire ce que j'aime. Et tout d'un coup, lui-même utilise ce verbe transitif, ouais. Alors qu'il avait défini l'écriture comme une activité intransitive dans des textes antérieurs. Et il dit que c'est ainsi qu'il faut entendre le thème de la résurrection dans l'histoire de Michelet, faire en sorte que des vies ne tombent pas dans le néant de l'histoire, ces vies, ces souffrances sont recueillies, justifiées. Et c'est un peu ce que vous faites, et c'est ce à quoi le lecteur est sensible en lisant cette autobiographie, mais qui, cette fois-ci, ne se place plus sous le signe de Narcisse, mais sous le signe d'Orphée, Blanchot disant qu'en Orphée descend vers Eurydice, l'art est la puissance par laquelle s'ouvre la nuit. Et c'est quelque chose de cet ordre. Mm-hmm. Vous l'arrachez à la nuit, oui. Votre mère, vous lui donnez forme et figure. C'est un acte de piété auquel, évidemment, les lecteurs sont sensibles, mais là, ils voient aussi une autre vérité que cette vérité-là. C'est une vérité de la folie, bien sûr.
Mm. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un acte de piété, c'est un acte d'amour, c'est un hommage. Quand j'ai écrit lui construire un cercueil de papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire d'elle un personnage. Ça veut dire faire d'elle un personnage romanesque. Elle qui d'ailleurs était éminemment romanesque dans la vie. C'est-à-dire en faire une héroïne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un, le personnage d'un roman, mais un personnage brave, courageux, qui lutte. Et ça, c'est là pour moi, c'est peut-être lui rendre, enfin, cet acte d'amour, il passe par le romanesque, oui, il passe par, et même si on part de la vérité, même si c'est une recherche de vérité.
Émilie Frèche, vous avez dit que vous preniez un risque vous-même en vous mettant en jeu dans ce livre, mais je vais vous interroger là-dessus en citant un autre auteur qui est un grand praticien de l'écriture autobiographique sous toutes ses formes, Renaud Camus, dans son livre PA, où il commence en disant « Ne lisez pas ce livre, vous qui n'aimez pas les justement les confidences, les confessions, les autobiographies. » Et il a cette phrase « Ils sont toujours à évoquer le petit confort bien douillet à les en croire qu'il y aurait à parler de soi. » Plutôt que de monter sur ses grands chevaux pour aller guerroyer contre les Indiens, le chômage, les femmes fatales à voilettes, les grands espaces, les grands ensembles et l'affreux problème des banlieues. Que ne s'y collettent-ils un peu eux-mêmes à ce confort vilipendé? Courage pour courage, admire autant celui de Jean-Jacques ou de Gilles ou de Léris que celui de Malraux ou de celui d'Hemingway. Et je ne sais pas lesquels de ces auteurs ont eu le plus d'influence sur l'histoire de l'homme, l'histoire de l'âme, l'histoire tout court et celle des sensibilités. Le plus d'influence sur nos vies tout simplement. Et il dit à un moment donné, est-ce que le soi n'est pas un grand sujet par hasard? Mais oui, il y a un certain courage pour Léris à écrire L'âge d'homme, ou pour Gide à écrire Ethnouk Manetinte. Mais là, on a envie de vous dire, où est le courage? Puisque d'une certaine manière, vous avancez quelque chose, et dès que vous avancez un peu trop loin, vous vous abritez derrière la fiction en disant, mais peut-être que ça n'a pas eu lieu et ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, donc je rebondis, comme on dit mal, sur le terme de risque que vous avez utilisé.
Mais je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire sur la sincérité du texte, sur la vérité sensible. À un moment, je le dis dans le texte, je dis, en fait, c'est l'histoire de cette narratrice qui s'est confrontée à la violence, notamment parce qu'elle a écrit un livre sur Ilan Halimi, et donc elle est allée dans les lycées placés en zone d'éducation prioritaire, travailler sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Et elle dit, finalement, il n'y a pas de violence plus grande que d'aller chercher au fond de soi. Oui, c'est un risque familial, personnel, c'est une impudeur, c'est une mise à nu, c'est faire de soi sa propre matière. Et c'est faire l'expérience aussi charnelle et domestique en l'espèce de cette question de l'antisémitisme pour le coup. Alors, puisqu'elle se retrouve face à un personnage qui par perversité va l'attaquer à l'endroit qui est le plus précieux pour elle puisqu'il est l'endroit de son combat.
Justement, alors qui est ce Benoît Parent là au sens de personnage de roman? La narratrice le rencontre, tombe sous son emprise, comme vous dites, et il se montre obsédé par la question juive, donc il est doublement dangereux par l'ascendant étrange qu'il exerce sur elle, et parce qu'il incarne, d'après ce que dit le roman, une certaine tradition antisémite dont vous avez le sentiment qu'elle se perpétue, qu'elle n'est pas morte, puisqu'il y a un écho entre ce qui arrive à la narratrice et ce qui est arrivé à sa grand-mère, tombée elle-même sous le joug d'un personnage redoutable, collaborationniste, etc., qui s'est terriblement mal conduit avec elle.
Il y a deux choses par rapport à l'antisémitisme de ce personnage. J'avais très envie de traiter cette question à l'heure du spectacle. L'antisémitisme à l'heure du spectacle. On nous a beaucoup répondu, et notamment autour de l'affaire Dieudonné, c'est de la provocation. Là, je mets en scène un personnage dont on peut dire qu'il fait de l'humour de mauvais goût. Et ce qui est étrange et ce qui est marrant, c'est que justement, aucun lecteur ne m'a dit « il est drôle ». Tous les lecteurs m'ont dit « mais c'est un odieux personnage, c'est atroce », parce que tout d'un coup, ils sont dans l'identification. Et c'est la force du roman aussi qui permet justement de se mettre dans la peau de la narratrice, de recevoir cette violence verbale de manière frontale. Donc, il y avait cet aspect des choses, cet antisémitisme domestique à l'heure du spectacle et qui pose la question de la liberté d'expression, de la frontière entre l'expression de la haine des autres, de la haine du juif, ou voilà, de juste de la liberté d'expression et de faire de l'humour. Et puis, il y a aussi évidemment l'inscription de ce personnage dans une certaine tradition littéraire. Je crois qu'on n'écrit pas à partir de rien. Et que, de manière assez légère, je crois que les deux personnages que je mets en scène, la narratrice qui donc écrit et Benoît Parent qui est aussi un écrivain, appartiennent à deux traditions littéraires totalement différentes.
C'est quoi la tradition de Benoît Parent ?
La désinvolture.
Oui, donc les hussards.
Voilà, il s'inscrit dans cette... peu importe ce qu'on dit, les mots n'ont pas de poids, les mots n'ont pas de pouvoir. Et le fait d'écrire ce livre, c'est aussi une manière de lui répondre. Ah bon, les mots n'ont pas de pouvoir? Eh bien, ils ont peut-être le pouvoir de te mettre en scène et de montrer ce que, dans le cadre intime, tu es capable de dire et de faire.
Alors, dans le genre provocation, il y a cette phrase qu'il dit à la narratrice à la fin du livre, absolument effrayante. Tu sais que c'est comme ça que ça va se terminer pour les Juifs de France. 7000 Juifs sont partis rien que cette année, c'est moi qui l'invente. Bientôt, il n'y aura plus de Juifs en France, plus un seul Juif. Tu te rends compte un peu, le grand rêve de Vichy, réalisé par des Mérats, des Nemouches, des Kouachis, que des petits-enfants de Bicot qu'on a fait venir du bled pour assembler les boulons et qui feront mieux que les idéologues du Troisième Reich, sans même avoir besoin de vous mettre dans des trains, tout ça simplement en jouant avec votre peur. Quelle intelligence, quelle économie surtout, la France nettoyée pour pain à rond, dis donc. Et tout ça, encore une fois, dans un style qui se veut humoristique, mais qui fait passer un message terrible.
Et qui est absolument glaçant, parce que il a sa logique pure. Il y a une logique dans ce propos-là, quelque chose qui se tient, qui est absolument inaudible. Benoît Parent est ce personnage qui dit des choses qu'on est capable d'entendre dans nulle part, sur le ton de l'humour. Et ça rentre, et ça passe.
Ça rentre et ça passe.
Et ça passe, et finalement, dès qu'elle s'offusque, il lui dit « mais t'as aucun humour, enfin !» Et donc, la punition n'est pas possible, la condamnation n'est pas possible. C'est ce renversement-là que je trouve dingue. Et qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Comment, il y a 20 ans, on luttait contre le racisme, contre l'antisémitisme, et comment, aujourd'hui, on devient des censeurs quand on dénonce cela.
Mais alors, justement, quand même, Émilie Frèche, il y a un personnage que je trouve plus inquiétant parce que plus contemporain que Benoît Parent, en dépit de sa parenté possible avec un auteur existant réellement. C'est un personnage qui apparaît au début du livre. Là encore, il s'agit d'un événement qui peut peut-être arriver ou peut-être pas, on n'en sait rien avec vous deux. Un apéro dînatoire chez un parrain d'élèves du lycée Lucie et Raymond Aubrac. Ah, oui. Vous allez voir, ou la narratrice va voir son amie Gabrielle, dont la fille s'est scolarisée dans ce lycée. Elle est heureuse de la retrouver, et elle a un petit ami, cette Gabrielle, joli garçon, qui est fier autour du cou, qui est son amoureux du moment, membre du réseau Éducation sans frontières, et qui apprend que la narratrice, et en l'occurrence vous, avait écrit un livre sur Ilan Halimi, et lui demande de but en blanc si elle cautionne la politique d'Israël. « Je vois pas le rapport », dit la narratrice. Et il dit « Tu ne vois pas le rapport entre la haine que peuvent avoir certains ici contre une communauté qui soutient massivement Israël et la politique odieuse de ce gouvernement ? C'est plutôt emmerdant, va falloir que je t'achète des lunettes. C'est quand déjà ton anniversaire ?» Et cette phrase sonne juste, je sais pas si elle a été prononcée, mais elle dit quelque chose de ce
l'époque
qui arrive aux Juifs aujourd'hui, de la situation où ils se trouvent, peut-être plus révélatrice
que
l'antisémitisme d'héritier de Benoît Parent.
Ben, j'ai envie de dire, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que le roman s'ouvre au lendemain des attentats contre Charlie et contre l'hypercachère. Des juifs meurent en France parce qu'ils sont juifs depuis l'analymie. Est-ce que dans ce contexte-là, dans ce contexte aussi de sujets qu'on ne peut plus aborder sans craindre de se fâcher avec l'autre, dont notamment la question sur Israël, est-ce que dans ce contexte-là, l'humour, enfin ce qu'il se veut pour de l'humour chez Benoît Parent, est audible, peut passer? Est-ce que c'est toujours drôle? Voilà. C'est la question aussi que pose son livre, et que pose ce livre, et c'est surtout... cette tradition, il faut pas oublier qu'elle existe toujours. Je dis pas qu'elle est moins grave, etc. Mais c'est comme si, voilà, ces deux extrêmes se réconcilient
aujourd'hui.
Et donc c'est assez cauchemardesque en fait. Il est aussi dans la dérision de ce combat contre l'antisémitisme, c'est-à-dire de vouloir ridiculiser ça comme si ça n'existait pas. Et au tout début, il lui dit. Mais écris sur moi. Tu sais bien que je suis un antisémite. Tu as écrit sur Ilan Halimi, écris maintenant sur moi. Et il y a ce mélange de volonté d'être en haut de l'affiche qui, pour moi, fait résonance avec une actualité que j'ai vue là il n'y a pas très longtemps avec, par exemple, Nab qui est porté au nu par Daesh. Non, mais c'est intéressant comment avoir le haut de l'affiche dans le pire. Et quelque part, Benoît Parent, il est l'archétype de cette mouvance-là.
Nous reviendrons à Marc-Édouard Nab, mais il y a une chose que vos deux livres, Delphine de Guégan et Émile Fraîche, ont en commun, ce sont deux romans sur l'emprise. Hein. C'est vraiment un homme dangereux, et effectivement, la narratrice succombe, comme malgré elle. Elle est amoureuse malgré elle, elle lui envoie des textos tout le temps, elle est obsédée, elle ne sait pas comment se défaire de cette obsession, et c'est tout ce que le livre raconte. Là, c'est une autre emprise, une femme qui s'introduit dans la vie de la narratrice et qui va jusqu'à s'installer chez elle. Alors pourquoi le choix de ce thème chez vous, Delphine de Guégan?
Oh, c'est une longue histoire. C'est un thème que j'ai abordé dans plusieurs de mes romans qui faut-il le croire, m'importe. Enfin, fait partie sans aucun doute de mes obsessions d'écrivain, on va dire. Plus que l'emprise, c'est cette idée d'abus de pouvoir, d'ailleurs, dont parlait Émilie tout à l'heure, d'abus de pouvoir ou d'abus de faiblesse, selon le point de vue duquel on se place. Voilà, ça m'intéresse, sans doute pour des raisons très personnelles qui n'est pas le lieu d'évoquer. Mais et là, dans D'après une histoire vraie, j'avais vraiment envie d'explorer cette idée de l'ascendant qu'une personne peut prendre sur une autre. Vous avez évoqué la possibilité que ce soit aussi un surmoi, c'est-à-dire que finalement, l'ennemi, il est parfois à l'extérieur, il est parfois à l'intérieur de soi. Et tout le roman explore la frontière finalement entre l'extérieur et l'intérieur, on va dire.
Oui, en même temps, on se dit en effet que ça devait être un ennemi intérieur parce que vous écrivez Rien ne s'oppose à la nuit, le livre obtient un succès considérable et quelque chose en vous, et peut-être hors de vous et en vous en même temps, vous pousse à continuer dans cette voie. Et peut-être que vous racontez l'histoire de ce combat intime pour sortir du piège de la vérité au sens purement biographique du terme, pour atteindre à une autre vérité, celle que procure, que donne le roman en tant qu'exploration de l'existence. C'est peut-être aussi de cela qu'il s'agit.
Oui, en tout cas, ça fait partie évidemment du projet, des questions qui sont posées par D'après une histoire vraie, mais j'ai envie de vous dire d'une manière plus générale. J'espère que c'est un texte aussi qui donne à voir au lecteur un peu les coulisses de l'écriture, pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on cherche, quel petit grain de sable, quelle faille, quel événement ou pas d'ailleurs a fait de nous des écrivains, comment on transforme le réel ou pas. On en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut ou pas répondre à la demande des lecteurs, toutes ces questions habitent le roman. J'aurais pu le faire d'ailleurs sous la forme d'un d'un essai. Oui. Je dois dire que l'idée m'a traversée, mais d'une part, je n'en suis pas capable. Enfin, je pense que je suis profondément romancière et ça m'intéressait bien davantage de le traiter par le roman, par le romanesque et par la fiction, et de faire voilà, de faire vivre, d'incarner toutes ces questions à travers des personnages, et notamment à travers le personnage de Elle, qui est à la fois effectivement cette femme qui est dans l'abus de pouvoir vis-à-vis de Delphine, la narratrice, mais qui est aussi, jusqu'à un certain point, et ça le lecteur finalement en décide à la fin du roman, un double de la narratrice.
C'est pour ça que je citais l'opération Shylock. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est une autre histoire de double.
Et au fond, si vous voulez, la question qui peut-être, enfin, une des questions pour moi les plus importantes qui sous-tendent le roman, c'est est-ce que c'est si important que ça soit vrai? C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, d'un homme dangereux, l'important c'est de savoir si cette histoire elle fonctionne ou pas. Quand on le lit, c'est est-ce qu'on croit à Benoît Parent? Moi, personnellement, je me fiche complètement de savoir qui a inspiré ce personnage. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'histoire qu'elle me raconte, elle marche ou pas. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois, par exemple, à cette forme d'antisémitisme? Est-ce qu'à un moment donné, Émilie me donne à l'appréhender, me le donne à voir ou pas? Est-ce que je crois à cette forme d'emprise? Et au fond, je me rends compte quand je discute beaucoup de ces questions avec les lecteurs, parce que c'est le sujet de mon livre. Je passe mon temps dans les librairies à discuter de ça avec des lecteurs qui ont perdu parfois leur capacité. Ils ont perdu confiance dans leur propre capacité à croire à la fiction, au pouvoir de la fiction. Et donc, quand ils étaient petits, ils s'émerveillaient quand on leur racontait des histoires merveilleuses. Et aujourd'hui, ils croient qu'ils ont besoin que ça soit vrai. Or, finalement, on se rend compte en discutant avec eux qu'ils sont les premiers à marcher pour une histoire dont ils savent pertinemment que, dans certains cas, elle n'a aucun rapport avec le réel, mais simplement, on fait vivre devant eux, pendant quelques heures, des personnages. Et ce plaisir qui consiste à croire, à vivre intensément la vie de personnages dont on sait qu'ils n'existent pas, je pense qu'il n'y a rien de plus, finalement, de plus puissant.
Oui, bien sûr. Peut-être aussi parce qu'on a une idée de plus en plus cancanière de la vérité.
Oui,
je
tout
dis,
à
il
fait,
y a
une
autre vérité. Celle dont Proust parle quand il dit qu'il s'agit de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons. Et il dit, la vie, la vraie vie, enfin découverte et éclaircie, c'est ça
bien
aussi
sûr
qu'apporte la littérature. Là, vous avez tout à fait raison. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous dans la lecture du roman d'Émilie Frèche. Sauf qu'à un moment donné, je reconnais le personnage, je suis amené à le reconnaître. Et dès lors qu'il s'agit d'un problème aussi aigu, aussi présent que l'antisémitisme, c'est important pour moi de savoir si ce type existe, s'il agit réellement, ou si c'est une pure invention. Ça n'est pas neutre. D'ailleurs, ce n'est pas neutre non plus ce que vous dites d'un personnage ayant réellement existé, et vous racontez une émission de télévision que j'ai vue, Émilie Frèche, et qui m'a bouleversé, qui m'a scandalisé à certains égards. C'était l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, avec Marc-Édouard Nabbe. Oui. Vous étiez à l'émission, il a interrogé Marc-Édouard Nabbe tout seul, enfin vous allez le raconter mieux que moi, et ça, c'est Marc-Édouard Nabbe, et ça compte que ce soit Marc-Édouard Nabbe quand même, d'autant plus que celui-ci a publié il y a quelques mois un numéro 1 d'une revue Patience, où il faisait un éloge dithyrambique de Daesh et des cruautés de Daesh. Tout ça compte quand même.
Tout ça compte, évidemment. Je crois que le roman dit aussi le monde dans lequel on vit. Donc ces éléments du réel me permettent d'ancrer une histoire dans un contexte particulier. L'histoire que vit la narratrice avec Benoît Parent, je pense qu'elle n'aurait pas pu exister il y a 20 ans. De par, justement, ce contexte. L'émission dont vous rappelez là, le contexte...
Racontez-la, peut-être. Que c'était
elle
passé,
dit,
exactement.
Parce que je l'ai mis dans le roman parce que elle dit absolument l'époque et justement le problème sur la question, notamment de l'antisémitisme. C'est une émission donc organisée par Frédéric Taddeï qui est l'intitulé Dieudonné, faut-il ou non interdire son spectacle pour antisémitisme. Il invite 5 ou 6 personnes. Nous sommes évidemment au courant de qui est là. Des gens sont pour, des gens sont contre. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que les propos qu'il tient sont infâmes. Et la discussion se tient sur la question du droit et est-ce que c'est utile surtout. Et puis, au milieu de l'émission, Frédéric Teddy se lève et dit « Je vais maintenant poser la question à Marc-Édouard Nabe, un cerveau malade. » Marc-Édouard Nabe n'est pas un cerveau malade. Marc-Édouard Nabe est un raciste, un antisémite. Il a écrit des choses abjectes dans ses textes. D'ailleurs, il n'a même plus d'éditeur. Il édite à compte d'auteur. Et surtout, donc non seulement il nous met sur le fait accompli parce que nous ne sommes pas prévus de cette invitation, contrairement à toutes les autres, et il me prive, moi, de la possibilité de débattre. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est qu'il choisit Marc-Édouard Nabe, un antisémite notoire, comme autorité morale pour dire si le spectacle de Dieudonné doit être interdit ou non. Non, mais c'est absolument kafkaïen. Et qu'est-ce que répond Marc-Édouard Nabe? Il dit ce qu'il y a de plus grave chez Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Comme si la théorie du complot n'était pas à la base de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il dit à 2 millions de spectateurs qui n'ont pas les éléments intellectuels pour décortiquer ce discours, ils se moquent d'eux, ils se moquent de nous, et ça devient de la manipulation. Et je suis là sur ce plateau de télévision, on est en direct, et je me dis, qu'est-ce qui est en train de se jouer là?
Et vous avez d'ailleurs...
Et donc j'interviens, et je,
oui.
Et je dis, quelle est votre responsabilité, Frédéric Teddy, dans cette mise en scène?
Alors ce qui est assez stupéfiant aussi, moi j'ai été très étonné d'entendre Marc-Édouard Nabe dénoncer avec véhémence le conspirationnisme, donc ce... en apparence changer de camp, mais j'ai mieux compris en lisant cette revue Patience, donc éloge du califat et des violences commises par le califat. Ce qu'il n'aime pas dans l'idée du conspirationnisme, c'est qu'elle dépossède Al-Qaïda de ses hauts faits. C'est dénoncer, dire que le 11 septembre est une manipulation de la CIA, c'est affaiblir en quelque sorte Ben Laden. Il ne faut pas être conspirationniste, ils l'ont fait et c'est bien qu'ils l'aient fait. C'est en ce sens, si vous voulez, qu'il attaque le conspirationnisme, mais en même temps, cela ne s'entend pas à l'antenne et on se dit, bah tiens, Marc-Édouard Nabe a changé, Marc-Édouard Nabe a réfléchi, Marc-Édouard Nabe redevient quelqu'un, voilà, en tout cas un intellectuel ou un écrivain fréquentable. Mais c'est tout autre chose qui s'est joué et vous l'avez senti.
Mais ce livre, enfin Un homme dangereux, c'est aussi sur un livre sur les salauds et sur la manière dont les salauds sont pas forcément là où on les attend, comment ils se cachent, comment des gens qui ont pignon sur rue et sont formidables dans la sphère intime, sont absolument abjectes. C'est pareil que sur la violence faite aux femmes. On va dire, voilà, ce type avait l'air formidable, et puis en fait, on ne savait pas, mais il battait sa femme. Mon livre pose la même... met en scène exactement le même mécanisme sur la question de l'antisémitisme. La défense, c'est ce personnage n'a jamais proféré une ligne qui soit tendancieuse. Bah oui, bien sûr. C'est toute la différence entre ce qui est... Le roman est là aussi pour montrer l'intime, comment les gens sont dans l'intime. Donc voilà, c'est un personnage qui se comporte comme ça, dans le rapport intime.
Dans le rapport intime, le roman montre l'intime et en même temps, le roman, c'est de la fiction. Le roman invente, le roman imagine... Et Delphine de Figan, est-ce que vous continuerez, vous, dans la voie fictionnelle, ou est-ce que vous n'avez pas épuisé complètement toutes les possibilités que vous offre l'autobiographie ou l'hétérobiographie, puisqu'en l'occurrence, il s'agissait bien davantage de la biographie de votre mère que de la vôtre?
Je ne sais pas encore, il est un peu tôt pour le dire. Je disais tout à l'heure que ces étiquettes m'intéressaient assez peu. C'est jamais comme ça qu'on pense à un livre. Un livre s'impose dans notre trajectoire d'écrivain, et comme Émilie disait tout à l'heure, comme une nécessité. Et on ne se dit pas, enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais dit, je vais écrire une fiction ou je vais écrire une autofiction ou je vais écrire une autobiographie. À un moment donné, un livre s'impose, commence à mûrir, à flotter, et je commence à réfléchir au livre d'après. Et puis, éventuellement, à un moment donné, je constate qu'il va s'agir d'un livre qui sera plutôt une fiction ou plutôt une autofiction, une autobiographie. Et je ne peux pas présager pour l'instant de la suite. Mais si je reviens, si je peux me permettre de revenir sur cette question de l'intime, au fond, l'intime, dans le sens le plus personnel, c'est-à-dire qu'il s'agisse de moi, qu'il s'agisse d'Émilie, qu'il s'agisse des personnes que nous mettons éventuellement en scène, ça n'a pas d'intérêt si par la voie du roman, de l'écriture, on ne parvient pas au romanesque et à l'universel. Tu évoquais tout à l'heure Annie Ernaux. Pour moi, la force, la grande puissance d'Annie Ernaux, c'est qu'à travers une histoire qu'elle a donnée à lire comme étant en effet plus ou moins la sienne, se défendant d'ailleurs totalement de l'étiquette de l'autofiction,
et elle a bien raison. Parce qu'elle, elle c'est pas le pacte contradictoire dont parle Genette, c'est le pacte autobiographique. Elle s'inscrit plutôt dans la tradition de Saint-Augustin et de Rousseau.
Tout à fait. Et en même temps, la force de ses livres vient du fait qu'elle accède à l'universel, qu'elle nous raconte une époque, qu'elle nous raconte la réalité du transfuge social, du fait tout d'un coup d'échapper à son milieu, à sa condition.
Le sentiment de honte et de trahison qu'elle peut éprouver.
Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est intéressant, c'est non pas parce que c'est elle, c'est pas le côté, vous évoquiez le côté cancanier, ou etc. Et ça rejoint ce que je disais quand je dis que moi, au fond, ça ne m'intéresse pas de savoir de qui sont inspirés les personnages des romans. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on accède ou pas à quelque chose d'universel ? Est-ce que ce livre nous raconte ou pas quelque chose sur l'antisémitisme, sur l'époque ? Et c'est toute la différence. Sinon, on n'aurait plus qu'à lire des journaux People et à regarder la télévision.
La télé-réalité. Voilà. La télé-réalité, d'ailleurs, qui est un des thèmes récurrents de D'après une histoire vraie. Alors, pour conclure, Émilie Frèche, vous êtes d'accord, j'imagine ?
Ah, je suis entièrement d'accord. Après, vers quoi j'irais ? Il est encore trop tôt pour le dire.
Vous dites que la narratrice dit qu'elle écrit pour se libérer d'un certain nombre de personnages. Donc,
c'est marrant.
Il y a toujours un rapport entre ce qui lui arrive ou ce qui vous arrive et les romans écrits.
J'ai l'impression qu'on est toujours décidé par un livre, par le livre qu'on va écrire, que, effectivement, comme a dit Delphine, il s'impose. Mais je me rends compte qu'il y a une permanence dans les livres que j'ai écrits, à savoir une résonance toujours avec mon histoire intime, comment elle peut résonner avec le monde dans lequel on vit, voilà, ces espèces de résonances toujours. Mais c'est vrai que j'écris contre, souvent. Donc
nous verrons contre qui, contre quoi vous écrirez. Et Jules Renard, à qui on demandait... maintenant que vous avez fini votre livre, qu'allez-vous faire ? Répondait, je vais le continuer. Donc, en tout cas, il reste aux rares lecteurs qui n'ont pas lu D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, de se précipiter. Le livre est publié chez Lattès et on trouve en poche « Rien ne s'oppose à la nuit ». Émilie Frèche, votre livre « Un homme dangereux », livre palpitant, je l'ai dit, qui se présente et qui est donc un roman, est publié aux éditions Stock. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre et pour sujet « Le chevalier de Maison Rouge » d'Alexandre Dumas. Mes invités seront Pierre Bayard et Claude Chop. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Dechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.